Les collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuelle, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Il est 16h, vous écoutez Europe 1. Et on fait tout de suite un point sur l'actualité avec Brandon Ouarrett. Bonjour Brandon.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le Premier ministre en déplacement dans la Manche aujourd'hui. Après une foire au bulot ce matin, Gabriel Attal s'est rendu sur une exploitation maraîchère et s'est adressé aux agriculteurs.
On est au contact des agriculteurs, on échange en permanence et surtout on travaille à des mesures concrètes pour nos agriculteurs. Ce matin, nous avons annoncé une série de 14 nouveaux engagements qui ont été travaillés avec les représentants des agriculteurs sur la trésorerie de nos agriculteurs, sur les retraites de nos agriculteurs. Et donc, on va pouvoir arriver à enfin le système qu'ils réclament, c'est-à-dire qu'on tienne compte de leurs 25 meilleures années. Et puis, sur la question de l'accès à l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Je veux dire aussi que le travail se poursuit. C'est pas parce qu'il y a eu un mouvement de crise avec une mobilisation très forte, qu'on n'est plus dans ce temps-là, que je vais lâcher le sujet. Au contraire, on va continuer à travailler avec les agriculteurs, avec leurs représentants, via évidemment le ministre, et moi-même je continuerai à recevoir leurs représentants.
Gabriel Attal au micro d'Europe 1. Et ces mesures s'ajoutent aux 62 engagements déjà présentés par le Premier ministre et visent à mettre fin à la crise agricole historique de cet hiver. La FNSEA et les jeunes agriculteurs assurent vouloir faire preuve de vigilance et se disent disposés à entrer dans une nouvelle phase. Prochain rendez-vous avec les principaux syndicats la semaine prochaine. Le président de la République les rencontrera au palais de l'Élysée. Ouf de soulagement à Bercy, les agences de notation américaines Fitch et Moody's ont rendu leur verdict. Le coup près était attendu mais n'est pas tombé. Les agences américaines maintiennent inchangée la note souveraine de la France. Les regards sont désormais tournés vers l'agence Standard & Poor's qui doit rendre son verdict le 31 mai à quelques jours des élections européennes. La flamme olympique désormais française depuis hier a mis le cap sur Marseille à bord du mythique trois-mâts Belém. Arrivée prévue le 9 mai au Vieux-Port, 150 000 personnes seront au rendez-vous pour l'accueillir et c'est le nageur Florent Manaudou, quadruple médaillé olympique, qui sera le premier à porter la flamme olympique à son arrivée sur le sol français. Le sport, c'est aussi le football, suite de la 31e journée de Ligue 1. Après le match nul 1 partout hier soir entre Montpellier et Nantes, à 21h, le PSG reçoit le club normand du Havre. À noter plusieurs absents de taille dans la liste de Luis Enrique. En cas de victoire, les Parisiens seront sacrés champions de France pour la 12e fois de leur histoire. Et en tennis, le numéro 7 mondial Tsefano Tsitsipas est sorti dès le deuxième tour du Masters 1000 de Madrid cet après-midi. Il a été battu par le 118e joueur mondial, le brésilien Thiago Monteiro. Défaite 6-4, 6-4. Il y a quelques minutes, Jannik Sinner, numéro 2 mondial, a signé une victoire éclair. 6-0, 6-3, 69 minutes de jeu pour éjecter son compatriote Lorenzo Sonego. Europe 1, il est 16h03 et tout de suite, vous avez rendez-vous avec les meilleurs moments de Sophie et les copains.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Europe 1 pour écouter le meilleur de Sophie et les copains. 2 heures de culture générale, 2 heures de rire, de bonne humeur et surtout 2 heures pour vous donner envie de vous inscrire et de gagner le jackpot du jour. Et pour les règles, il faut d'abord donner 4 premières bonnes réponses en vous faisant aider par les copains si besoin. Et ensuite, seul face à Sophie d'avant, vous donner 10 bonnes réponses en moins d'une minute. Et pour vous inscrire, rien de plus simple que d'envoyer Sophie par SMS au 739-21, 3 fois 75 centimes plus le prix d'un SMS. Et sachez qu'en plus, écoutez bien, la semaine prochaine, chaque inscription participera automatiquement au tirage au sort pour gagner un voyage en Slovénie. Donc dès lundi, vous envoyez Sophie au 739-21. Notre auditrice Christelle a joué dernièrement avec Sophie d'avant et les 3 copains du jour, Daniel Moreau, l'animateur Clément Lanneau et Caroline Margeridon. Et avant la toute première question, on fait bien sûr sa connaissance. Ce sont les meilleurs moments de Sophie et les copains, 16h, 18h sur Europe 1.
Bonjour Christelle.
Bonjour Sophie et les copains. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Christelle qui nous parle avec un petit accent que je connais bien. Ah, on n'est pas loin de Bordeaux là, Christelle.
Oui, tout à fait.
Ah, vous dites une chocolatine.
Vous êtes où précisément?
Un petit village qui se trouve à côté de Saint-André-de-Cubzac.
Très bien. Moi, j'allais jouer au basket là-bas, Saint-André de Cubzac.
En championnat.
Il y a une statue, je crois, à l'entrée de la ville de Sophie en train de dunker.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christelle?
Je suis chauffeur pour des personnes âgées.
Donc souvent en voiture et souvent à l'écoute d'Europe 1, peut-être?
Oui, toute la journée.
Toute la journée. Voilà ce qu'on aime entendre sur cette antenne.
Ah, mais les gens du Sud-Ouest, ils sont formidables.
Et puis vous vous êtes dit, j'arrive à répondre aux questions, pourquoi je ne m'inscrirai pas?
Tout à fait, voilà, je vais essayer.
Et vous voilà chez nous. Alors il y a 500 euros dans le jackpot que vous pourrez tenter si vous me donnez 4 bonnes réponses. Voici une question construction.
Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du 8e.
On a beaucoup bâti, construit durant les années Pompidou. Comme disait le proverbe, quand le bâtiment va, tout va. Si on pense aux constructions et au président Pompidou, on pense bien sûr au centre Beaubourg. Mais un autre lieu lui doit également beaucoup. Lequel? 3 propositions. Les galeries Lafayette, la tour Montparnasse ou le paradis de la babouche.
Oh là là, le paradis de la babouche, ne m'en parlez pas. J'y étais hier.
Ça, on s'en souvient tous, du paradis de la babouche.
C'est monumental, ça a été grandes années.
Mondialement connu.
Est-ce qu'on vous êtes Christelle?
On va voir ce qu'elle veut, Christelle.
La tour Montparnasse, c'est plus tard. Moi, je vois ça plutôt vers Chirac.
On va écouter Christelle, peut-être. Ouais. Elle a peut-être une idée.
Déjà, on met pas la troisième.
Bravo, Christelle.
Mais je sais pas, je serais partie sur la tour Montparnasse. Après, je sais pas ce que vous en pensez.
Et vous, les copains?
Moi, je serais partie sur la tour Montparnasse qui a été construite à peu près dans ces années-là.
Je voyais plus ça plus tard, mais peut-être qu'il a initié.
Je suis complètement d'accord.
Et je pense que les galeries, c'est même avant.
Oui. Ouais. Ah bah les galeries Lafayette, oui, c'est vrai que c'est beaucoup. C'est beaucoup.
C'est vrai. Moi aussi, je suis d'accord, Christelle, avec notre ami. Ouais. Moi aussi, la tour Montparnasse, parce que je la connais. Et je connais même les infrastructures de cette tour. Et je
c'est
pense
du BA13, en fait.
Exactement,
sur,
ça a été fabriqué.
52 étages. Et c'est. C'est Lionel, le super maçon.
Vous savez pourquoi vous allez nous raconter. Alors, est-ce qu'on bloque cette réponse, Christelle?
Avant que Caroline nous dise avec qui elle a fait l'amour dans la tour Montparnasse, apparemment.
Je bloque votre réponse, alors. On va apprendre que Caroline Marchand-Hudon, dans une autre vie, était maçon.
Non, mais...
Mais ma sœur de maçon.
Bon, d'abord, est-ce qu'elle a gagné?
C'est une bonne réponse. Ouais. 1969, le président français tient à moderniser le pays. Il approuve et lance une cité moderne avec un centre commercial. C'est la tour Montparnasse. Elle reste du haut de ses 209 mètres, le plus haut gratte-ciel de Paris, intramuros.
Et c'est pas fini parce qu'il y a un projet de rénovation qui arrive. Je sais pas si vous avez vu, là, dans les années à venir, ils sont en train de. Le plan a été lancé de ce qu'ils vont en faire.
Ouais, depuis longtemps.
Les galeries Lafayette ont ouvert leurs portes en 1893. Ouais. Et le paradis de la babouche.
C'est en ce moment.
Ça existe.
Il paraît que c'était un vrai magasin qui se trouve à Bruxelles.
D'accord. Ah oui, mais à Bruxelles.
Alors, Christelle, première bonne réponse pour vous. Voici une question télévision. Quand Georges Pompidou devient président de la République en 1969 à la télévision, c'est la première diffusion d'une émission qui s'appelle Les Animaux du Monde. Une émission sur les animaux qui va être diffusée pendant 21 ans. Je souhaite
la même chose, Sophie, sur France 3.
Celle que je présente. En 1967, Pompidou est Premier ministre. Quelle grande innovation a lieu cette année-là? Est-ce que c'est l'arrivée de la télé en couleur? Est-ce que c'est la première fois qu'on peut profiter de la télé par câble? Ou est-ce que c'est la première fois qu'on voit apparaître Michel Drucker à la télévision?
Et c'est peut-être pas complètement impossible.
Drucker? Moi, je crois que je sais.
Non, Drucker, je crois pas.
Je suis en pleine
forme aujourd'hui. C'est en 164 ou un truc comme ça, donc il me semble que
bon,
c'est
Christelle,
pas Drucker.
Christelle, vous avez une petite idée?
Moi, mais j'hésite couleur, entre la première et la couleur ou Michel Drucker.
Est-ce que ce serait pas...
Pauvre Michel, qu'est-ce qu'on l'aime. Je suis sûre qu'il nous écoute, on l'embrasse fort d'ailleurs.
Il me semble que c'est
64, il a inventé la télé, Michel.
Alors, l'arrivée de la télé en couleur, la première fois qu'on peut profiter de la télé par câble ou la première fois que Michel Drucker apparaît sur les écrans.
Qu'est-ce qu'on fait, je crois.
Christelle, vous vous dites plutôt quoi?
Plutôt peut-être Michel Drucker, qu'est-ce qu'ils en pensent, les copains?
Moi je pense pas.
Un petit peu avant.
Alors, encore une fois, une anecdote, Sophie, je suis désolée. On avait une maison en Normandie, pas loin de la vôtre, et on a reçu la première télévision en couleur en 69, je m'en souviens très bien, j'avais 3 ans.
Oui.
Et tout le village est venu chez nous, parce qu'ils n'avaient jamais vu une télévision en couleur. Mmh. Et c'était dans les années...
Et ils avaient déjà vu Michel Drucker ou pas?
C'est ça, ah bah Michel, il était déjà là, notre ami voilà. Michel. Et moi, pour moi, je suis convaincue que c'est la une, la télévision en couleur. Maintenant, attention, hein, ça sort que de ma tête. Hein.
Est-ce que c'est cet extrait génial où ils annoncent que la télé est en couleur et quand c'est en couleur, ils sont tous en costume noir et j'adore cette archive. J'adore cette archive.
Alors, qu'est-ce qu'on fait, Christelle? Est-ce qu'on bloque?
Je vais suivre Caroline. Je vais suivre la
Ouais, elle est en pleine forme aujourd'hui. J'espère que je ne me trompe pas. Mais
L'arrivée oui, elle a de la forme. Je bloque la réponse. Le 1er octobre 1967, toute première émission en couleur fut une allocution de Georges Gors, le ministre de l'Information, sur la deuxième chaîne de l'ORTF.
Trop fort.
Concernant la télévision par câble, cette technologie a été inventée en Angleterre fin des années 30 pour être utilisée bien après. Hein, parce que moi, j'ai travaillé sur les télécablés de Biarritz, justement, en 1986.
Ouais, mais vous êtes un bébé, Sophie. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Et quant à Michel Drucker, sa première apparition dans la lucarne, c'est en 1965.
Quand il tremble
et
comme
c'est
une...
un reportage sur le coureur Michel Jazy. Bonne réponse.
Bravo,
pour Christelle.
Bravo.
Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Je vous donne rendez-vous dès lundi de 19h à 21h pour Europe 1 Soir, nouvelle formule. 2 heures d'actualité pour préciser, décrypter et débattre de l'information de la journée. Avec des invités et les voix d'Europe 1.
Europe 1 Soir, présenté par Pierre de Villeneuve.
Alors rendez-vous lundi de 19h à 21h sur Europe 1.
Visio Confucius, tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait, parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
16h-18h sur Europe 1, Sophie et les copains.
Ça se passe bien pour notre auditrice Christelle. 2 bonnes réponses sur 4 déjà. Et si Christelle continue sur cette lancée, aidée par la journaliste Danielle Moreau, Clément Lanoux et Caroline Margeridon, alors elle pourra tenter le jackpot. De 16h à 18h le samedi sur Europe 1, on écoute les meilleurs moments de Sophie et les copains.
On va jouer au qui ou quoi?
Qui? Europe 1. Le qui ou quoi?
Alors, il va falloir deviner de qui ou de quoi on parle avec les indices que nous allons vous donner. Écoutez bien.
C'était un surdoué. Il a tout fait très tôt, même mourir.
On a souvent dit qu'il était de droite. Je pense qu'il était surtout libre.
Son métier était ringard. C'est le premier qui l'a rendu classe.
Il paraît que Claude François jalousait son talent.
Quel organe incroyable. Il pouvait tout faire avec.
Alors, est-ce que vous avez une idée, Christelle?
Non, pas du tout. Là, je...
Un organe incroyable, ça ne vous dit rien?
Non, je ne sais pas si c'est sa voix ou...
Il avait plusieurs voix, il a eu presque autant de voix que Georges Pompidou quand il a été élu.
Alors, vous étiez bien jeune, vous, dans ces années-là. Hein.
Oui.
Bah, vous étiez peut-être même pas née.
Oui. Non, je n'étais pas née, non.
Il n'avait pas bon caractère, hein, Claude François, tout le monde l'a dit.
Il jalousait un peu tout le monde.
Ouais, je me demande s'il ne jalousait pas lui-même.
Il jalousait celui qui... Enfin, bah, ceux qui avaient du succès. Clément.
Alors moi, je ne l'ai pas, parce que je suis resté bloqué sur le...
Alors vous étiez en quelle année,
83,
vous?
83,
ah,
je suis loin de ça.
Loin.
Mais je cherche le métier qu'il a rendu...
Il était encore vivant en 83.
Un métier avec un bel organe.
Non, je pensais à la chanson, mais avant lui, c'était déjà...
Non, mais pourquoi le métier était ringard? La chanson, c'était pas ringard, les amis.
Parce qu'en fait, c'était un métier artistique, bien sûr, mais qui se faisait dans les cabarets. Et lui, tout d'un coup, en a fait un show incroyable. Il était sur des grandes
chansonnier.
Scènes.
C'était l'un des premiers dans ce métier à savoir chanter.
Ouais, en plus, c'était il avait une vraie belle voix. Parce qu'il a commencé dans un radio-crochet, c'était un peu The Voice de l'époque, et dans un télé-crochet, pardon, The Voice de l'époque, et avec une voix de ténor, parce qu'il avait aussi une voix de ténor.
Alors, ça vous dit rien, Christelle?
Mais je serais peut-être partie sur quelqu'un qui fait des imitations.
Oui, pas bête.
Alors, ouais, le roi des imitateurs.
C'était qui
le imitateur?
Réfléchissez.
Mais peut-être Thierry Leleux.
Voilà. Mais bravo, Christelle. C'est une bonne réponse. Il est né un 2 avril. Il aurait eu 72 ans aujourd'hui. Il est mort en 1986. À 34 ans seulement. Ouais. Il a caricaturé beaucoup de présidents et aussi Georges Pompidou. Il a été animateur sur Europe 1 en 1982.
J'allais assister à ses émissions.
Voilà, j'attendais l'anecdote de Daniel Moreau.
Je me souviens très bien d'une émission avec Dalida.
C'était, tu les as tous connus, t'as une chance
et
folle.
Il n'est pas resté longtemps parce qu'il s'est plus ou moins... Enfin, je pense qu'il s'est fait virer d'à peu près toutes les radios. Hein, de toute façon,
tellement
parce
il était insolent.
Il était très, très politiquement incorrect. C'était vraiment... Et c'est le premier qui a fait des shows au Théâtre Marigny, on se souvient. Enfin, voilà,
chez Drucker. En direct, il avait chanté L'emmerdant, c'est la rose
devant un parterre de d'invités socialistes.
Je peux poser une question probablement très indiscrète. Hier, on a demandé à François-Xavier de Maison, il avait au moins 95 ans, puisque 95 vies. Tu les as tous connus alors que tu fais très jeune. Mais tu as quel âge?
Merci, mais que 60. Hein, mais c'est déjà pas mal.
T'étais en couche-culotte quand tu les rencontrais.
Je séchais les cours pour aller assister aux émissions de Thierry Leleuron à Europe 1, je peux le dire. Voilà. Donc, j'étais encore en cours, j'étais encore à l'école.
1982, bon, on avait déjà.
On était
sur le point d'avoir le bac quand même.
Quand même
en 1982.
Ouais, parce que vous l'avez passé, vous, pas moi.
Oui, chacun son truc. Hein. Christelle qui a déjà trouvé 3 bonnes réponses. Et voici une question politique.
L'aventura, c'est la vie que je mène avec toi.
1972. En ce début d'année, c'est donc l'Aventura de Stone et Chardin qui est premier des hit parades. Quant à l'homme politique Pierre Messmer, il n'a pas trop le temps d'écouter cette chanson car il doit composer en tant que premier ministre le gouvernement de Pompidou. Quelle étonnante info concernant la formation de ce gouvernement est vraie? Est-ce que c'est le premier qui ne sera plus autorisé à fumer pendant le Conseil des ministres? Est-ce qu'une nomination s'est faite par erreur? On a nommé le frère de celui que le président voulait? Ou est-ce que, pour la première fois, la première dame a un rôle officiel?
Ah!
Alors là.
Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle?
Ben là, c'est compliqué. Ouais, J'aurais dit peut-être la première.
C'est une anecdote franchement étonnante.
J'aurais adoré que ce soit le frère.
C'est peut-être le frère,
c'est ça qui est drôle.
Ça me fait tellement rire, mais je me dis, on aurait peut-être plus entendu parler.
C'est la plus étonnante des trois. Donc
c'est pas pour autant que le gouvernement n'a pas été exceptionnel, hein, d'ailleurs.
Moi, j'ai vraiment envie que ce soit la deux, juste pour avoir l'histoire et de se dire, c'est vrai.
Attends. Alors, on était dans une grenouille géante, en fait. Grande de là, au moins tout là-bas. Il y avait des pans, hein, mais des vrais, pas comme les grenouilles géantes. On était dans un jardin déjà, et on volait sur des chaises. Un manège géant, c'était trop bien, trop rapide, trop chouette.
Au jardin d'acclimatation, cultivons l'inattendu. Préparez votre visite. Réservez vos billets sur jardindacclimatation.fr.
Pompidou a été élu président en 69.
Ouais.
Donc, je bloque une nomination qui s'est faite par erreur. Oh, on a nommé le frère de celui que le président voulait. Eh bien, c'est une bonne réponse, Christelle. C'est dingue quand même. Il y a eu une erreur dans le gouvernement. On voulait Jean-François Deniau. On a nommé son frère Xavier.
C'est incroyable.
Il va finalement rester un an. Puis Jean-François finira quand même par arriver au gouvernement.
Non.
La légende dit que quand le président Pompidou a présidé son premier conseil de ministre, il a dit à Messmer, mais je ne vois pas Jean-François autour de la table.
C'est drôle, on adore.
C'est son frère qui est
énorme. Et dire qu'on a failli avoir Bernard Attal en premier ministre, c'est dingue.
Et Messmer, c'était le bon, c'était pas celui qui hypnotise les gens, c'est bon.
En tout cas, pour Christelle, ça fait 4 bonnes réponses, ses amis.
Bravo, Christelle.
Car elle va tenter un jackpot spécial année Pompidou. Est-ce que vous êtes prête, Christelle? Il va falloir me donner 10 bonnes réponses en moins d'une minute.
Allez, courage.
Donc il faut aller vite. Hein?
D'accord.
Allez, attention, on vous souhaite bonne chance.
Bonne chance.
500 euros à gagner.
Concentrez-vous.
Attention, top chrono. Georges Pompidou est né en 1901 ou 1911?
11.
Qui était président avant Pompidou?
Je passe.
Quand Pompidou devient présidente en France, qui était le président aux USA, Nixon ou Carter?
Nixon.
L'épouse de Georges, c'était Claude ou Valérie?
Claude.
De quel acteur Markovitch était le garde du corps?
Je passe.
Georges Pompidou est né dans le Cantal ou dans la Drôme?
La Drôme.
Quel Jacques était surnommé par Pompidou le bulldozer?
Jacques Chirac.
À la mort de Pompidou, quel Alain a assuré l'intérim dans les institutions françaises?
Je passe.
Vrai ou faux, Pompidou a été membre du Conseil constitutionnel?
Vrai.
Quelle actrice a chanté Poupou Pidou?
Marilyn.
Pour Serge Gainsbourg, comment était l'année 69?
Érotique.
Quel célèbre festival de musique s'est déroulé aux États-Unis durant l'été 69?
Ah,
oh, dommage,
là.
Vous avez bien joué, hein, franchement. Woodstock.
Ouais, mais quand vous passez, il faut passer plus vite, Christelle. Ouais.
Oui. En fait, il ne faut pas réfléchir.
Sept bonnes réponses pour vous, Christelle.
Ah, là, c'était bien, 3. Quand même, ah, bravo.
Quel était le président avant Pompidou?
De Gaulle.
Oui.
Ça, c'est le trac.
Le général de Gaulle.
Bah oui, le général
de quel acteur Markovitch était le garde du corps?
Celui qui prend le bus avec Alain Daniel.
Delon, vous avez Jean-Marie Prolin d'un côté, Alain Delon de l'autre.
Ah bah voilà.
C'est marrant que Alain Delon, on l'entend pas beaucoup aujourd'hui.
On est loin de la culture des années 70. J'apprends.
Alors, 6. Georges Pompidou est né dans le Cantal ou dans la Drôme?
Dans le Cantal, en 1911.
Bien. Quel Jacques était surnommé par Pompidou?
Elle l'avait dit, ça c'est
Chirac.
Bon. Oui.
À la mort de Pompidou, quel Alain assurait l'intérim? Le président du Sénat?
C'était Alain Poher.
Alain Poher.
Alain Poher. 1968-1992.
En fait, c'est ça, c'est qu'on a parlé de Chirac. Pompidou, il avait un talent, c'est de savoir s'entourer d'autres talents. Et même si ces jeunes poulains risquaient de lui faire de l'ombre, ils reconnaissaient leur talent. Et donc, Balladur,
C'est pour ça qu'il a fait des choses si incroyables en seulement 5 ans.
Il avait des défauts ou pas?
Non, aucun. Il n'avait aucun défaut.
Merci de vous être inscrite, d'avoir joué avec nous.
Et
je crois que vous recommencer quand vous le souhaitez, puisque je vous ai trouvée brillante.
Ah oui.
Merci beaucoup.
Qui voulez-vous saluer? Profitez-en. N'hésitez pas.
Oh, ben non, je salue mes enfants. Voilà.
Et puis toutes les personnes âgées que vous accompagnez, surtout, parce qu'ils doivent nous écouter.
Il faut leur dire de nous écouter.
Ah, bah oui.
Bon, Christelle, on vous embrasse très fort.
Pour jouer sur Europe 1, envoyez Sophie par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS.
Et faites comme Christelle, donc inscrivez-vous à ce numéro pour passer un très bon moment avec Sophie Davant et les copains. D'autres extraits sont à écouter juste après cette nouveauté Europe 1, le groupe Texas avec Spooner Oldham pour la reprise de Would I Like to You. Bon après-midi.
Don't you know it's true, boy? There's no one else but you.
Texas et le pianiste américain Spooner Oldham se sont associés pour réenregistrer les plus grands tubes de Texas, parus fin mars dans un nouvel album. Et on y retrouve 12 titres, deux reprises, dont celle de Charlie Eddy, Would I Lie to You, qu'on vient d'écouter sur Europe 1. Alors, pas de reprise pour Julia Vignali. Non, mais que des interviews inédites chaque week-end à 9h moins le quart avec ses incontournables. Alors, il s'agit en fait d'un tête-à-tête avec les personnalités incontournables du moment, d'où son nom. Et demain, son invité sera l'immense acteur Viggo Mortensen pour son nouveau film Jusqu'au bout du monde. Les incontournables de Julia Vignali, c'est tous les samedis et dimanches à 8h45 durant Europe 1 matin week-end et à réécouter en replay sur le site et l'application Europe 1. Et parmi les meilleurs moments de Sophie et les copains, votre jeu de culture générale sur Europe 1, on a retenu le passage de notre auditrice Christine, dont l'accent, vous allez voir, ne va pas passer inaperçu. Aux côtés des copains du jour, l'animateur Joe Hume, Jean-Luc Lemoine et Daniel Moreau, vous écoutez les meilleurs moments de Sophie et les copains, 16h-18h sur Europe 1.
Bonjour Christine.
Oui, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour les copains.
Bonjour Christine.
Bonjour Christine.
Bonjour
Christine. Bonjour Christine.
Qu'est-ce que c'est que ce petit accent ?
Ah ben, pour au sud-ouest.
Ah, ah magnifique. Où exactement ? Sud-ouest. C'est tout mignon ce nom de village, ça s'appelle ?
Rontignon.
Rontignon. C'est sur les hauteurs ?
Non, c'est tout près de Pau.
Ah bon. Quoi ?
Ben ça calme, hein. Là, c'est calme tout de suite.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Christine ?
Je suis câbleuse.
Câbleuse. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi ?
Je fais des montages en électricité pour l'aéronautique et pour les et pour d'autres boîtiers électriques et tout ça.
Ok. Wow.
Faut être bonne en maths là pour faire ça.
Des choses qu'on sait pas faire nous. Ouais.
Non, faut surtout être très manuel.
D'accord. Ah, bon, tout va bien, Christine. Qu'est-ce que vous faites en dehors de votre métier ? Plein de trucs ?
Oui. Bon, le sport. Plus trop maintenant, et maintenant je me suis mis au crochet.
Ah, bah ça change du sport, alors.
Voilà. C'est le sport des phalanges, quoi.
Voilà, et oui.
Vous avez un bon crochet du droit ?
Oui.
Est-ce que de votre fenêtre, vous voyez la chaîne des Pyrénées ?
Ah oui, quand c'est dégagé, oui.
Oh là là.
Mais là, il y a un peu de neige, en plus c'est très joli.
C'est tellement beau, cette région de Pau. Allez, on va jouer avec les archives d'Europe 1, Christine. Vous allez écouter ce joli jingle.
Top 50, le classement des meilleures ventes de disques en France.
Waouh. Avec laquelle nous allons évoquer Bernard Lavilliers.
La musique est un cri qui vient de l'intérieur. De n'importe quel pays, de n'importe
nous
quel
sommes monde. En 1986, la chanson s'appelle Noir et Blanc. Elle va atteindre la 10e place du top 50 et se classer 17 semaines au plus haut dans le top 50. Écoutez, il était l'invité d'Isabelle Morizet en 2017 sur Europe 1.
Cher Bernard, après être parti traîner vos guêtres à l'âge de 19 ans à la découverte du Brésil, vous avez passé un an dans une forteresse à Metz, à l'isolement. On vous quitte dans la cellule d'une prison en Lorraine et puis on vous retrouve en train de chanter dans des cabarets de la rive gauche à Paris. Comment Bernard ou Lyon, c'est votre vrai nom, est-il devenu Bernard Lavilliers ?
Alors, enfin j'ai fait des trucs indispensables pour devenir chanteur. Je peux pas vous dire exactement parce que...
Il a la prunelle qui brille.
Alors, donc, il dit, ce Bernard Lavilliers, qu'il a fait des trucs indispensables pour devenir chanteur. Mais qu'est-ce qu'il va dire à suite ? Quelles sont les révélations qu'il va faire ? Est-ce qu'il a attaqué des transporteurs de fonds pour s'acheter des guitares? Est-ce qu'il a vendu un camion qui n'était pas à lui? Est-ce qu'il a donné de sa personne auprès d'une riche héritière? À votre avis, Christine, est-ce que vous êtes fan de Bernard Lavilliers, Christine?
Oui, j'aime bien, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une intuition? Est-ce qu'il a attaqué des transporteurs de fonds pour s'acheter des guitares? Est-ce qu'il a vendu un camion qui n'était pas à lui? Est-ce qu'il a donné de sa personne auprès d'une riche héritière? Oui. À votre avis?
Je pense plutôt à la deuxième. Hein.
Moi, j'avais le souvenir qu'il était un peu bad boy au début, Bernard Lavilliers, qu'il était
ça
pas
peut être limite.
Limite, quoi. Ça pourrait presque être la première aussi, quoi.
Ouais, la première. Camion, ouais.
Moi, j'aimais bien aussi le côté gigolo.
Ah oui.
Mais. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
J'ai même pas d'intuition là.
J'ai un doute parce que c'est vrai que le côté bad boy, ça paraît tellement dingue que ça pourrait être ça. Mais j'avoue que j'ai un petit doute avec le gigolo.
Elle a dit qu'il l'avait fait de la prison là dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure.
Écoutez,
si Sophie nous dit ça, c'est vraiment qu'elle est méchante si c'est pas la première réponse.
Ouais.
Moi, mon premier instinct, ça aurait été de partir sur la première, effectivement, parce que il me semble avoir vu soit lu des interviews, des documentaires où vraiment il racontait qu'il avait vécu une vie un peu de hors la loi, quoi, avant de devenir rockstar, de voyou, et que c'était d'ailleurs une partie de cette vie-là qu'il racontait un peu dans ses premières chansons, quoi.
Ouais. Alors, Christine, à vous de choisir.
La musique, puis la prison.
Qu'est-ce qu'on fait?
C'est la première, alors.
Comment?
La première, alors, l'attaque du camion.
Alors, écoutez, je vous propose d'écouter justement la réponse.
Oui.
On peut imaginer le pire.
Oui. Non. Disons qu'on a attaqué les diligences, un peu, les transporteurs de fonds. Ah. Ah
ouais. Pour pouvoir produire des disques, c'est ça?
Non. Non, pour m'acheter des guitares. Enfin bon, partager.
D'accord.
Hein. Mais on n'a tué personne, rassurez-vous.
Des guitares, bien sûr. Ouais, c'est pour acheter des guitares.
C'est une belle métaphore.
Ouais. Alors, il a quand même fait donc un an de prison parce qu'il a tenté d'échapper au service militaire. Puis il a fait aussi de la prison au Brésil à cause de son communisme. Et visiblement, il aurait pu faire encore plus de prison.
Ouais, c'est clair. Non, mais c'est à mon avis, il a des histoires marrantes à raconter. Bernard Lavilliers, vraiment. Quoi.
Une question top 50. Sur le taxi. En 1987, il se vend 30 000 disques de Joe le Taxi par jour. Le tube va rester 11 semaines numéro 1 du top 50. Le record, c'est 15 semaines, on l'a dit tout à l'heure, avec Jordi. À cette époque, Vanessa n'a plus trop le temps d'aller à l'école. Pendant qu'elle enregistre son premier album, que va-t-il se passer pendant cette période particulière? Est-ce qu'elle va faire un concert dans son collège pour financer les travaux de la cantine? Est-ce qu'elle va faire à Étienne Rodagil une rédaction parce qu'elle n'a pas le temps de la faire? Ou est-ce qu'elle va faire un procès à une compagnie de taxi qui s'appelle Joe? À votre avis, Christine?
Moi, je penserais que c'est la deuxième.
Elle va faire à Étienne Rodagil une rédaction. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains?
Moi, j'adore cette idée, mais quand on connaît la pub de Rodagil, c'est pas sûr qu'il y ait une bonne note.
Oui, ça se trouve, c'était un peu décalé, sûrement.
C'était tellement fin, tellement poétique pour une rédaction, je sais pas si c'est la meilleure idée.
Qu'est-ce que vous en pensez, Joe?
Moi, je serais plus parti sur la première. Je la vois bien faire un concert pour, pour rénover la cantine, mais je sais pas trop.
Et parce Daniel, que j'aurais bien pensé la cantine aussi.
Parce que Rodagil, effectivement, c'est quand même des paroles.
Alors là, Christine, il va falloir.
Ah, c'est dur, hein.
Choisir.
La compagnie de taxi, j'y crois pas trop.
Votre première intuition,
non,
c'était
pas,
la dictée.
Je crois pas au taxi.
Ouais. Mais votre.
La rédaction. Je vais vous suivre.
Mais, alors, vous suivez qui? Parce que vous, vous aviez une intuition, vous aussi. Ouais. Ne l'oubliez pas.
Ouais. Nous, on n'est pas sûrs. Hein,
moi,
on
j'étais
est...
sur la même intuition que vous, et les deux autres ne sont pas d'accord.
Ouais, parce qu'à l'école.
Mais Jean-Luc a des bonnes intuitions.
Je n'étais pas très aimé au début, justement.
Ça, c'est vrai.
Alors, on choisit, Christine, qu'est-ce qu'on bloque?
Qu'est-ce qu'on bloque? On va chercher, on va bloquer. Je vais rester sur mon idée, tant pis.
Donc, okay. Elle va faire faire à Étienne Rodagil une rédaction que sa prof de français lui a donnée à faire. Il a eu 2 sur 20, figurez-vous. Ah, oui. En tout cas, c'est une bonne réponse, Christine.
Ah, génial, génial.
2 sur 20.
Mais ça, c'est pas étonnant, parce que c'est pas que
elle a montré les copies à l'auteur d'Alexandre et Alexandra, Ce n'est rien, Le lac majeur, plus de 700 chansons. Et il paraît qu'il a ri. Avec 2 sur 20, attends, ça l'a fait rire.
Cela dit, ça correspond à ce que disait Jean-Luc. Moi, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'était pas. Elle avait 14 ans quand même, Vanessa Paradis, Étienne Rodagil, écrire une rédaction.
Non, mais elle a eu une bonne réflexion, Christine. C'est vrai qu'elle était détestée, Vanessa Paradis, à l'époque.
Elle devait pas être archi populaire
dans son collège. C'était pas bête de la part de Christine.
Vrai. Non, mais c'est drôle parce que ça revient toujours en question après la perception qu'on peut avoir quand on est prof de français aussi. J'ai une anecdote qui est assez proche. C'était Hervé Christiani.
Ouais. C'était son. Il est libre max.
Oui, il est libre max. Et le prof de français de son petit neveu avait demandé à ses élèves d'interpréter un petit peu le sens de « Il est libre, Max ». Et je dis « Oh bah, ça tombe bien, c'est tonton !» Donc c'est Hervé Christiani qui a fait la rédaction. Il a eu 10 et voilà. Comme appréciation, n'a pas compris l'auteur.
Génial.
Ouais, c'est formidable.
C'est comme Chaplin qui est arrivé dernier à un concours de sosie de Charlot. Quoi.
Alors, 1987, moi, c'est l'année de mon premier contrat sur France Télé.
Voilà.
Ouais, 1987.
Moi, c'est l'année où on a commencé à m'appeler Joe le Taxi pendant à peu près toute mon enfance. On m'a appelé Joe le Taxi.
C'est marrant, les garçons, ils ont envie de se confier aujourd'hui.
Non, mais je voudrais savoir, parce que Joe, c'est pas commun. D'où ça sort? Pourquoi on...
Mon prénom, c'est Jonathan, mais en fait, tout le monde m'appelle Joe depuis que je suis tout petit.
Ouais.
Et Joe le Taxi, c'est vraiment devenu mon surnom. Mon prof de natation m'appelait Joe le Taxi. En classe, dès que je commençais à faire un peu les durs, on m'appelait Joe le Taxi. Mes parents ont fini par m'appeler Joe le Taxi. C'est-à-dire, c'est vraiment... J'ai nourri une sorte de petite rancœur avec cette chanson. Pourtant, j'adore Vanessa Paradis.
Alors que Jean-Luc Lemoine, on l'appelle Jean-Luc Moreau que depuis le mois de septembre.
C'est ça, mais je m'y suis fait.
Bon, Christine, vous avez trouvé 2 bonnes réponses. Bravo, vous avez bien joué là sur la dernière question.
Europe 1. Nous sommes recordman d'Europe en matière de prélèvement obligatoire. Est-ce qu'on peut continuer sur une pente à la grecque ou est-ce qu'on redresse ce pays?
On tient, on résiste et on assume un principe de laïcité.
Il y avait beaucoup plus d'insouciance, en tout cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une peur généralisée.
Si vous êtes condamné à moins de 6 mois de prison, vous n'allez pas en prison. Attendez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas si grave que ça.
Je vous jure que le temps que je fasse mon lacet, que je relève la tête, j'ai vu le couteau se planter.
On ne peut pas continuer comme ça à exposer nos enfants, la jeunesse, à des formes de violence inouïes.
Un enfant, c'est pas un droit. Quand on le fait, c'est qu'on le veut et qu'on doit l'assumer.
Europe 1.
Hey, trop de boulot. Tu sais si on a une bonne couverture dans cette boîte?
Ah oui, ici on a le top de la couverture, hein, en lin, en coton et même en marbre. C'est classe, mais c'est un peu froid.
Attendre des siècles une bonne couverture santé pour vos salariés, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, vos collaborateurs bénéficient d'une couverture santé adaptée à leur secteur d'activité et ses obligations et ont accès à des ateliers de prévention sur mesure. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Souscription, informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers.
Europe 1, 16h-18h, Sophie et les copains.
16h-18h, le week-end sur Europe 1, on écoute des extraits de votre jeu quotidien Sophie et les copains. Et souvenez-vous, nous étions en plein milieu du parcours de notre auditrice Christine. Déjà 2 bonnes réponses, aidées par les copains Joum, Jean-Luc Lemoine, la journaliste Daniel Moreau et leur invité, le chanteur Alain Chamfort. Parviendront-ils à l'aider à répondre aux 2 prochaines questions pour tenter le jackpot? On va le savoir maintenant sur Europe 1.
Alors, on va jouer avec Christine dans votre univers, cher Alain Chamfort. On va jouer au chiffre du jour.
Europe 1.
1 180 000 centimes. Non. J'ai fait une erreur dans les chiffres, c'est pas la première fois.
Le chiffre du jour.
Alors, le chiffre du jour, Christine, c'est 20. À quoi correspond-il? Est-ce que c'est le nombre de loulous de Poméranie que possède Alain Chamfort? Je ne savais pas qu'il possédait des loulous de Poméranie. Est-ce que c'est le nombre de semaines qu'a passé Manu Reva au top 50? Ou est-ce que c'est le nombre de personnalités de la musique que l'on voit dans son clip la grâce.
Je ne les ai pas comptés.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages dans son dernier clip, une vingtaine.
Est-ce qu'il y a des loulous de Poméranie?
Non, ça je pense pas.
20 loulous de Poméranie, ça fait beaucoup quand même, ça fait une meute. Hein.
Je pense pas. Je pense plutôt à le nombre de personnalités qu'il y a dans son dernier clip. Vous en pensez quoi?
Qu'est-ce que vous en pensez, les copains?
C'est à peu près ça, mais
moi,
bon.
Je serais parti là-dessus aussi, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il y en a. Je les ai pas comptés,
alors,
cela dit.
Alors, vous les dites, Julien, Claire, Véronique, sans bon. Je sais pas si j'arriverai à la
On bloque cette réponse.
Ça, mais ouais.
Bah, écoutez, tout le monde a l'air motivé par ça, ouais.
Ouais. Ouais, tout le monde pense comme. Allez, on y va.
Eh bien, c'est une bonne réponse. Ouais. Voilà. Il y en a 20, d'Alain Souchon à Véronique Sanson, passant par Étienne Dao, Vincent Delerme, Juliette Armanet, Francis Cabrel, Julien Clerc, Benjamin Biolay, Jeanne Chéral, Laurent Voulzy, Jean-Louis Aubert, Bertrand Belin. Il représente
rêve, hein,
quoi pour vous, tous ces gens, tous ces artistes?
Une forme de l'intégrité. Mmh. Voilà, je crois que c'était... au départ, l'idée était de rassembler des gens qui m'ont influencé. Là, ils m'ont pas tous influencé parce que j'étais là un petit peu avant eux. Mais ce que je trouvais, c'était au moins de garder une ligne de conduite et d'avoir des artistes, tous d'ailleurs créateurs, parce que c'était des gens qui écrivent leurs chansons et qui expriment ce qu'ils sont. Voilà, j'avais envie de garder cette logique-là.
Et alors, pour revenir à Manu Reva, combien de semaines au top 50?
J'ai aucune idée.
Quelques semaines, je crois. On a la réponse, les amis? Jo, vous n'avez pas d'idée?
Du nombre de semaines passées par Manu Reva au top 50? Oui. Non, je ne sais pas.
Bon, bah, ils vont chercher.
On va rappeler Martin Escia tout de suite.
Non, mais on pourrait dire si c'est dans les premières places ou toute sa carrière.
Ah oui.
Ouais. Bah, évidemment, ça change la donne.
Oui, c'est ça, complètement.
Manu Reva, donc hommage à Alain Colas, passion pour le bateau. Moi, je me souviens être monté sur un bateau avec vous en 1988, dans ces années-là.
J'étais initié à la voile par
Loïc Perron.
Et est-il vrai que en fait Manu Reva, ça devait pas être Manu Reva au départ, c'était sur California.
C'était Ali California qui était un texte pas réussi du tout.
Voilà, c'est ça. Les deux textes étaient de Gainsbourg, cela dit.
Oui, bien sûr.
Mais vous avez retoqué le premier.
Il a accepté de revoir sa copie. Et heureusement, parce que la chanson n'aurait pas du tout fait réagir de la même manière, c'est sûr.
Alors Manu Reva, en fait, le top 50 n'existait pas. Elle est sortie en quelle année, Manu Reva?
En 79.
Ah bah oui, non, mais oui. C'est pour ça qu'on ne sait pas, en fait. Ah bon, on aurait su.
Trois bonnes réponses pour Christine, qui a encore une bonne réponse à trouver. On va jouer dans l'univers d'Alain Chamfort et on va jouer au bluff européen.
Tu bluffes, Martini.
Européen.
Il bluffe.
Le bluff.
Pas sûr.
Alors Christine, je vais vous poser une question. Chaque copain va proposer une réponse en essayant d'être le plus convaincant possible. Une seule affirmation est bonne. À vous de la retrouver. Alain Chamfort est un vrai dandy de la pop. Il a une fascination pour la mode et notamment pour le couturier Yves Saint Laurent. Vous lui avez d'ailleurs dédié un album, Une vie de Saint Laurent. Ouais. On va écouter un petit extrait.
J'ai un petit bureau à la droite de Dior, dois-je dire de Dieu. Je ne suis qu'assistant, mais assistant de Dior, c'est à mes yeux.
Donc une passion pour le couturier?
Pas dire ça. Pour être totalement honnête, c'est une idée que Pierre-Dominique Burgot, l'auteur avec lequel je travaille toujours, il me présentait. J'avais pas de maison de disque, j'avais pas trop ce que j'allais faire, et il m'a proposé d'écrire un disque sur la vie d'Yves Saint Laurent. Non, je trouvais pas vraiment les raisons, parce que je trouvais pas que c'était un personnage très populaire, etc. Enfin, et puis finalement, j'ai lu les premiers textes. Ça m'a donné envie de me plonger dans la biographie de Saint Laurent, et j'ai réalisé évidemment toute l'œuvre, et puis l'impact qu'il a eu sur la société, sur les femmes, etc. Donc bon, c'est devenu un projet dans lequel j'ai eu plaisir à rentrer, et on a fait cet album. On s'est retrouvé un peu isolé pour le faire, personne n'en voulait. Enfin bon, après, on l'a fait vivre comme on n'a plus, mais j'ai découvert à cette occasion-là évidemment toute l'importance de sa créativité.
Alors on va en parler d'Yves Saint Laurent, justement, qui était un passionné d'art, et la fondation fondée avec son éternel complice Pierre Berger en témoigne. En 1998, la fondation Saint Laurent Berger participe à la rénovation d'un monument français et y apporte sa petite touche personnelle. Christine, de quel monument s'agissait-il ? Voici la proposition de Daniel.
Eh bien, il s'agissait de la cathédrale de Strasbourg. Ils ont entièrement financé la rénovation
rénovation de cette cathédrale grâce à leur fondation. C'était une somme colossale. Et donc, ils ont posé une condition qui est quand même assez improbable. Mais voilà, c'était tellement... C'était une somme... Les gens de la cathédrale ont cédé. Ils ont installé un préservatif géant au sommet de la cathédrale pendant la journée du Site d'Action 1998.
D'accord.
Daniel n'y croit pas.
C'est vrai que ça peut paraître incroyable.
J'ai senti le flou dans tes yeux.
Proposition de Jo.
Alors, en réalité, la fondation Yves Saint-Laurent et Pierre Berger ont collaboré à la rénovation de la grande obélisque de la place de la Concorde à Paris. Et ils ne l'ont pas seulement rénové, ils l'ont même terminé, puisqu'il y a un pyramidon à bout pointu qui a été installé. Avant 1998, elle ne se terminait pas complètement, cette obélisque. Et grâce à cette rénovation, elle est désormais complète, terminée, grâce à Yves Saint-Laurent et Pierre Berger.
Et Jean-Luc
Non, ils ont dit n'importe quoi et ça me fait beaucoup de peine pour eux. Simplement, non, ils se sont investis grâce à la fondation pour la rénovation du château de Chambord. Le château de Chambord, donc c'était une grosse somme d'argent et ils en ont profité aussi pour rénover le Café d'Orléans, qui est le restaurant qui est dans le château de Chambord. Et pour la petite histoire, les meubles ont été designés par Yves Saint-Laurent et la décoration a été aussi conçue par Yves Saint-Laurent. C'est comme ça qu'ils ont laissé une trace.
Ouais. C'est un peu Christine. Faible, Jean-Luc, excusez-moi.
Allez, vous amusez avec votre préservatif, hein, s'il vous plaît.
Alain, la bonne réponse. Connaît cette anecdote?
Non, absolument pas.
Christine, alors, qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que vous penchez pour Daniel, qui prétend qu'ils ont participé à la rénovation de la cathédrale de Strasbourg, ou est-ce que vous penchez pour la proposition de Jo, qui dit qu'ils ont participé à la rénovation de l'obélisque de la place de la Concorde, et Jean-Luc, lui, prétend que c'est au château de Chambord?
Faites-vous aider peut-être par Alain,
ouais. Alain, il a peut-être une idée.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je sais pas. Moi, je me souviens que le site d'action était financé par Pierre Berger, non?
Oh oui. Voilà. Ouais.
Et donc, ils avaient fait des actions aussi.
Il y avait effectivement eu ce préservatif.
Il y avait un préservatif.
Est-ce qu'ils n'auraient pas mis un préservatif géant sur l'obélisque?
Ce qui aurait été peut-être
plus judicieux.
Plus judicieux que sur la cathédrale de Strasbourg.
Bah oui. À votre avis, où est-ce qu'on peut mettre un préservatif géant si ce n'est pas sur une cathédrale?
Alors, j'ai pas d'avis sur ça, non.
Christine, qu'est-ce qu'on fait?
On va choisir alors le préservatif, alors.
C'est la
cathédrale de
Strasbourg.
Là, il faut choisir le monument.
Je pense que tout le monde s'est un peu embrouillé. Donc, il y a soit la cathédrale avec le préservatif, soit il y a le pyramidon avec l'obélisque, ou le restaurant avec le château de Chambord.
Allez, une réponse.
Soit à Strasbourg, soit à Chambord.
Christine, allez, on bloque.
Il y a eu le préservatif sur l'obélisque, mais c'est eux qui l'ont fait quand même.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On bloque quoi?
Eh bien, on choisit ça, tant pis.
L'obélisque de la place. Mais qui vous a parlé d'un préservatif? Il ne s'agit pas d'un préservatif. Il s'agit d'un pyramidion en bronze, en or, au sommet du monument. Et en 2022, le sommet de l'obélisque a été restauré. On a rajouté une pointe d'une quinzaine de centimètres en acier inoxydable, doré à leur fin, qui complète désormais la structure, car le pyramidion posé en 98 ne disposait pas de terminaison. Mais il n'y a pas de préservatif.
C'est un délire personnel.
Oui, en fait, c'est un fantasme de Daniel Moreau. Il va falloir trouver 10 bonnes réponses, Christine. 10 bonnes réponses en moins d'une minute. Exercice de rapidité avec un blind test spécial, oui. Top 50 aujourd'hui, puisqu'on fête les 40 ans du top 50.
Ah ouais.
Est-ce que vous êtes prête, Christine?
Oui, prête.
Attention, on y va, bonne chance à vous.
Ouais.
Merci.
Attention, top chrono. Quel Ivan a présenté le top 50 en 1991 avec Bruno Solo?
Le Bouloc.
Quelle nièce de Marlène Jobert a chanté « T'en vas pas, si tu m'aimes, t'en vas pas » ?
Elsa.
Avec quel Glenn Elsa a eu un roman d'amitié en 1900 ? Qui a écrit un roman d'amitié, Didier Barbelivien ou François Feldman ?
Barbelivien.
Earth, Wind and Fire est un groupe anglais ou américain ?
Américain.
Quel genre fait des confidences pour confidences ?
Shooters.
Vrai ou faux, Jimmy Cliff est cubain ?
Faux.
Pour quel chanteur elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue ?
Marc Lavoine.
Un enfant de toi par Phil Barney a été rechanté 14 ans après l'original avec une participante du Loft ou de la Starac ?
Vrai.
Quel duo avait besoin de rien, envie de toi ?
Passe.
Lio est né en Espagne ou au Portugal ?
Portugal.
Qui est la plus heureuse des paresseuses et qui, de toutes les manières, préfère la Watt ?
Caroline Webb.
Le vrai prénom de... Oh,
on a eu peur.
Il y avait une très bonne
culture du top 50, Christine. Là, bravo. 500 euros pour vous, chère Christine. Une bonne fin d'après-midi.
Merci à vous tous.
Au revoir, Christine.
Au revoir.
Pour jouer sur Europe 1, envoyez Sophie par SMS au 739-21. 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Aujourd'hui, 3 millions de Français se privent de produits d'hygiène essentiels, faute de moyens. Pourtant, se sentir propre, c'est aussi vital que de se nourrir. Depuis 20 ans, l'association Don Solidaire rend possible la distribution des produits d'hygiène auprès des personnes en situation de précarité. Grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Lucas, fraîchement préparé, va confiant à son entretien d'embauche. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
Rouge des prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faufilé.
En anglais.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelée.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snaqué.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Et oui.
16h-18h sur Europe 1, Sophie et les copains.
Nouvel extrait maintenant pendant les meilleurs moments de Sophie et les copains avec notre auditeur Jeff. Jeff a eu la possibilité dernièrement de tester sa culture générale aux côtés des copains du jour, la chanteuse Magali Ripoll, Enora Malagré et Clément Lanoux. Une équipe de choc qui, on l'espère pour lui, lui permettra d'accéder au jackpot. Mais avant cela, faisons la connaissance avec Jeff, notre auditeur Europe 1.
Bonjour Jeff.
Coucou.
Et bonjour les copains, les copines et Sophie.
Bonjour. Salut Jeff. Qui nous appelle d'où ?
Ben, je vous appelle de Istres, dans les Bouches-du-Rhône.
Mm-hmm. Où vous faites quoi ?
Ben, je suis retraité, donc je fais plein de choses.
Ouais. Très actif. Vous faisiez quoi avant ?
Alors, avant, j'ai fait deux choses. J'étais surtout photographe en tant que directeur artistique et après, j'ai basculé dans... Chargé d'affaires grand compte dans la sécurité incendie. Voilà,
d'accord. Vous continuez à faire de la photo ?
Oui, oui, toujours. Ça, c'est ma première passion. Et ça, oui, je continue toujours. Oui.
Argentique ?
J'ai fini l'argentique parce que bon, ça devient de plus en plus difficile. Et puis le labo, ça prenait un peu trop de place. Bon, puis c'est vrai qu'avec le numérique, c'est beaucoup plus facile. Et puis bon, maintenant, on a très bons résultats.
Qu'est-ce que vous aimez photographier, Jeff ?
Alors, à l'heure actuelle, moi, je photographie beaucoup tout ce qui est paysages, les animaux aussi, ça j'aime bien. Je me suis doté d'un gros téléobjectif pour faire des photos d'animaux en vol ou en surprise. Voilà.
D'accord.
En gros, c'est ça, la chasse aux animaux.
En surprise, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas rendez-vous avant, les animaux. C'est vraiment le chat ne vient pas en disant, voilà, je vais poser.
Moi, j'aime bien le travail de Peter Bird.
Ah ouais,
magnifique, très, très ce mélange de photos, de textes, de dessins.
Sublime,
j'aime beaucoup
sublime.
Ce qu'il fait. Vous nous écoutez régulièrement, Jeff ?
Ah oui, depuis très longtemps. Ça fait peut-être une trentaine d'années que j'écoute Europe 1. Moi, je rentre dans ma voiture, c'est Europe 1 qui est tout de suite allumé.
Bon. Ouais, c'est super, sympa. Super. Et vous n'avez jamais été infidèle ?
Si, mais pas à une radio.
À un moment, j'avais tenté une autre radio, mais je suis revenu à Europe 1.
Ah, vous avez bien Jeff, fait. Super.
On va jouer en musique, Jeff, avec Magali qui va vous expliquer... ce qu'elle attend de vous.
On se croirait dans un bar pour un cocktail. Alors j'attends de
elle
vous, mon
belle,
cher
là,
Jeff.
Vous sortez de tournage ou quoi aujourd'hui, là, l'habit en noir et blanc ?
Alors justement, c'est exceptionnel. Je suis un petit peu classe, un tout petit peu.
Parce que vous avez un rendez-vous avec votre amoureux.
Non, bah non, sinon je me serais habillée, je m'en fous. Sinon...
Ah, non, c'est pas vrai, non, mon chéri, je t'embrasse.
Qu'est-ce que. Non, ce soir, j'ai effectivement justement un petit cocktail, alors je vais être obligée de boire et de manger
oui.
Les petits fours, n'est-ce pas? Donc je me mets déjà dans l'ambiance. What do you want to drink?
Alors, qu'est-ce que vous attendez de Jeff?
Arrête, te moque pas de moi, toi, avec ta salopette, là. C'est arrête où je t'emmène avec moi ce soir.
Elle parle à Coluche, hein, si vous nous rejoignez.
Alors, j'attends de vous, mon cher Jeff, que vous reconnaissiez le nom du groupe. Allez, c'est le minimum que je vous demande de la chanson que je vais vous interpréter. C'est-à-dire, je vais vraiment jouer trois notes. Je vais faire un blind test gimmick. Ça dure 2 heures.
Ouais.
Vous reconnaissez ?
Alors, Jeff.
Ça me dit quelque chose.
Ah, je suis sûre que vous connaissez. Les copains,
moi je l'ai, moi je l'ai complètement. Moi,
j'étais sûr que vous.
On l'a, on est fans.
Ah ben on est vraiment pile de la génération et je crois qu'il y a quelque chose à fêter aujourd'hui.
Alors ouais. Peut-être que Jeff, il est pas de cette génération-là non plus.
Non, c'est vrai, pas forcément, mais on peut connaître.
Peut-être
quand même.
Que Jeff n'était pas.
C'est pas un groupe français.
Non, c'est un groupe de Seattle.
Je suis pas sûre. Peut-être que les copains peuvent vous aider, Jeff.
On va vous aider.
On va donner un petit indice. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le triste anniversaire de la disparition de la tête du cerveau de ce groupe.
Ah bon ?
Ouais. Ça a l'air de...
C'est un groupe qu'on adore atteindre.
C'est un Qu'est-ce groupe qu'on où ils ne se lavaient pas beaucoup. Ils ne se nettoyaient pas tellement, ils avaient les cheveux gras. Alors, il y a une expression...
Ah, c'est pas Nirvana ?
Ouais, 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 ouais. Vous voyez, quand on parle cheveux gras...
Ah oui, voilà, là j'ai trouvé.
Moi j'adore. Cela fait déjà 30 ans que Kurt Cobain est parti.
En 94,
incroyable.
Jour pour jour. Et ça a failli être le premier album que j'ai failli acheter, puisqu'en fait je voulais comme tout le monde écouter Nirvana, je devais être en 6e. Mmh. Et j'envoie ma grand-mère acheter mon premier album. Me dit prends ce que tu veux et j'ai juste vu Nirvana, je l'ai pris, je dis je vais faire comme tous les copains, avoir du bon gros rock et c'était un autre truc Nirvana qui était du chant lyrique.
Mais non.
Je vous laisse imaginer ma tête quand j'ai ouvert mon premier CD. C'était sympa mais c'était pas ce que j'attendais.
Qu'est-ce que j'étais fan, moi j'étais amoureuse de Kurt Cobain, je m'habillais comme eux, j'étais dans un parfait mimétisme, en plus je suis blonde, alors vraiment j'avais l'impression de faire partie du groupe.
Ça moi, fait Courtney.
Non, mais ça a quand même révolutionné la musique, Magali, cette histoire.
Alors
qu'est-ce que vous souhaitiez nous raconter sur Nirvana?
En parler pendant des heures, mais Smells Like Teen Spirit, c'est le titre de cette chanson, qui est le premier single du deuxième album Nevermind de Nirvana. Il est sorti en 1991. Il a joué un rôle, justement, comme le disait Enora, c'est un rôle pivot dans l'histoire du rock en popularisant une esthétique grunge. Le titre est inspiré de la phrase Kurt Smells Like Teen Spirit, ce qui veut dire Kurt a l'odeur de l'esprit adolescent. Alors, c'est une phrase qui a été taguée sur un des murs de sa chambre par une amie et il découvre par la suite que c'est en fait le nom du déodorant que portait son ex-petite amie. Alors, comme si en France, on avait par exemple écrit je sens le narta, je suis fraîche, et ça se voit. Bon, bien qu'il ait parfois...
Le narta ou le bien-être, ou
voilà,
le
reposé,
voilà.
Choya, c'est ça. D'ailleurs, ils sont très bons, celui-ci. bien qu'on l'ait parfois accusé de plagiat, parce qu'il ne s'en cache pas, il s'est directement inspiré de la structure musicale de son groupe fétiche, les Pixies. C'est ce qu'il met très en avant dans cette chanson, les couplets très très calmes et les refrains ultra.
Est-ce que ça va bien, mes éternuements sur la musique de Nirvana?
Je pensais que ça faisait partie du morceau.
Moi, je pense que c'est le déodorant. J'en ai mis trop.
Ah oui, c'est ça, oui, ça doit être ça. Bon, en tout cas, ça fait une bonne réponse pour Jeff. Bravo Jeff. On va enchaîner avec une question actualité. Une nouvelle qui nous vient d'Italie, de Venise plus particulièrement, avec Paris, c'est l'une des villes les plus visitées au monde. Et justement, pour contrer le tourisme de masse, la cité des Doges a pris une décision radicale. Laquelle ? Est-ce qu'elle va faire payer 5 euros la visite de la ville pendant la journée ? Est-ce qu'elle va créer une réplique de la ville dans la lagune voisine ? Ou est-ce qu'elle va augmenter de 10% les tarifs des hôtels et des restaurants ?
Oula, oula là, Jeff, vous avez une idée ?
Alors moi, j'ai eu une vague idée, j'avais entendu dire ça, qu'il ferait payer aux touristes...
L'entrée de la ville.
L'entrée de la ville, oui.
Ouais, ça me dit quelque chose aussi.
Oui, complètement, non, Clément?
Alors moi, j'y suis allé il y a quelques semaines et je peux vous confirmer que c'est la bonne réponse. Je pense que c'est bon. Ça. Je choisis ça.
Donc, est-ce qu'on bloque Jeff?
Ben, que les gens vont payer l'entrée de la ville.
D'accord, et c'est une bonne réponse. Et bravo,
bravo
à vous.
Bravo,
une
Jeff.
Mesure qui sera effective dès le 25 avril. Donc vous, elle est c'est déjà effectif.
Ah, moi, j'y suis allé, c'était pas effectif, mais on m'a dit, attention, bientôt ce sera payant et attention, bientôt ce sera sous l'eau. Donc dépêchez-vous d'aller visiter Venise.
C'est vrai, le niveau de l'eau a monté.
C'est, alors, par saison, c'est très compliqué. Il y a les pieds dans l'eau, mais ils essaient de tout faire pour limiter, mais il n'y a pas grand-chose à faire.
Moi, j'y suis allée une fois, c'était très inondé anormalement.
Quoi. C'était les larmes des gens.
Si le niveau de l'eau monte à cause du réchauffement, forcément, ça devrait être inondé. Il n'y aura pas que Venise, d'ailleurs, qui sera inondée, hélas. Mm-hmm. Alors, le maire de Venise a déclaré qu'il s'agit d'une expérimentation. C'est la première fois que ça se fait dans le monde. Le but, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de réguler l'afflux de touristes. Mais si, au passage, on peut gagner un peu d'argent, n'est-ce pas? C'est quand même pas mal. Elle ne s'appliquera pas tous les jours, cette taxe, mais seulement les jours de très forte affluence, comme les week-ends et les vacances. Eh bien, déjà, deux bonnes réponses pour Jeff. Il en faut